Chapitre 2. L'éducation que ces bons prêtres me donnaient était aussi peu littéraire que possible. Nous faisions beaucoup de vers latins, mais on n'admettait pas que, depuis le poème de la religion de Racine le Fils, il n'y eut aucune poésie française. Le nom de Lamartine n'était prononcé qu'avec ricanement. L'existence de Victor Hugo était inconnue. Faire des vers français passait pour un exercice des plus dangereux et eût entraîné l'exclusion. De là vient en partie mon inaptitude à laisser ma pensée se gouverner par la rime. Inaptitude que je ne puis bien vivement regretter, car souvent le mouvement et le rythme me viennent en vers. Mais une invincible association d'idées me fait écarter l'assonance que l'on m'avait habitué à regarder comme un défaut et pour laquelle mes maîtres m'inspiraient une sorte de crainte. Les études d'histoire et de sciences naturelles étaient également nulles. En revanche, on nous faisait passer assez loin, pousser assez loin l'étude des mathématiques. J'y apportais une extrême passion. Ces combinaisons abstraites me faisaient rêver jour et nuit. Notre professeur, l'excellent abbé Duchesne, nous donnait des soins particuliers à moi et à mon émule et ami de cœur, Guillaumard, singulièrement doué pour ses études. Nous revenions toujours ensemble du collège. Notre chemin le plus court était de prendre par la place, et nous étions trop consciencieux pour nous écarter d'un pas de l'itinéraire qui était rationnellement indiqué. Mais quand nous avions eu en composition quelques curieux problèmes, nos discussions se prolongeaient bien au-delà de la classe, et alors nous revenions par l'hôpital général. Il y avait de ce côté de grandes portes cochères toujours fermées, sur lesquelles nous tracions nos figures et nos calculs avec de la craie. Les traces s'en voient peut-être encore, car ces portes appartenaient à de grands couvents, et dans ces sortes de maisons, on ne change jamais rien. L'hôpital général, ainsi nommé parce que la maladie, la vieillesse et la misère s'y donnaient rendez-vous, était un bâtiment énorme, couvrant, comme toutes les vieilles constructions, beaucoup d'espace pour loger peu de monde. Devant la porte était un petit auvent où se réunissaient, quand il faisait beau, les convalescents et les bien portants. L'hospice, en effet, ne contenait pas seulement des malades. Il comprenait aussi des pauvres, remis à la charité publique, et même des pensionnaires qui, pour un capital insignifiant, y vivaient chétivement mais sans souci. Toute cette compagnie venait à chaque rayon de soleil, à l'ombre de l'auvent, s'asseoir sur de vieilles chaises de paille. C'était l'endroit le plus vivant de la petite ville. En passant, Guillaume et moi, nous saluions et l'on nous saluait, car quoique très jeunes, nous étions déjà censés clairs. Cela nous paraissait naturel. Une seule chose excitait notre surprise. Bien que nous fussions trop inexpérimentés pour rien voir de ce qui suppose la connaissance de la vie, il y avait parmi les pauvres de l'hôpital une personne devant laquelle nous ne passions jamais sans quelque étonnement. C'était une vieille fille de 45 ans, coiffée d'une large capote d'une forme impossible à classer. D'ordinaire, elle était à peu près immobile, l'air sombre, égaré, l'œil terne et fixe. En nous en apercevant, cet œil mort s'animait. Elle nous suivait d'un regard étrange, tantôt doux et triste, tantôt dur et presque féroce. En nous retournant, nous lui trouvions l'air cruel et irrité. Nous nous regardions sans rien comprendre. Cela interrompait nos conversations, était un nuage sur notre gaieté. Oh, elle ne nous faisait pas précisément peur. Elle passait pour folle. Or, les fous n'étaient pas alors traités de la manière cruelle que les habitudes administratives ont depuis inventé. Loin de les séquestrer, on les laissait vaguer tout le jour. Tréguier a d'ordinaire beaucoup de fous. Comme toutes les races du rêve, qui s'use la poursuite de l'idéal, les Bretons de ces parages, quand ils ne sont pas maintenus par une volonté énergique, s'abandonnent trop facilement à un état intermédiaire entre l'ivresse et la folie, qui n'est souvent que l'erreur d'un cœur inassouvi. Ces fous inoffensifs, échelonnés à tous les degrés de l'aliénation mentale, étaient une sorte d'institution, une chose municipale. On disait « nos fous » comme à Venise, on disait « notre carampane ». On les rencontrait presque partout. Ils vous saluaient, vous accueillaient de quelques plaisanteries nauséabondes, qui tout de même faisaient sourire. On les aimait et ils rendaient des services. Je me souviendrai toujours du bon fou Briand, qui s'imaginait être prêtre, passait une partie du jour à l'église, imitant les cérémonies de la messe. La cathédrale était pleine tout l'après-midi d'un murmure nasillard. C'était la prière du pauvre fou, pour qui en valait bien une autre. On avait le bon goût et le bon sens de le laisser faire et de ne pas établir de frivoles distinctions entre les simples et les humbles qui viennent s'agenouiller devant Dieu. La folle de l'hôpital général, par sa mélancolie obstinée, n'avait pas cette popularité. Elle ne parlait à personne. Personne ne songeait à elle. Son histoire était évidemment oubliée. Elle ne nous dit jamais un seul mot. Mais cet œil fauve et hagard nous frappait profondément, nous troublait. J'avais souvent pensé depuis à cette énigme, sans arriver à me l'expliquer. Oh, j'en eus la clé il y a 8 ans. Quand ma mère, arrivée à 85 ans, sans infirmité, fut atteinte d'une maladie cruelle qui la mina longtemps. Ma mère était tout à fait de ce vieux monde par ses sentiments et ses souvenirs. Elle parlait admirablement le breton, connaissait tous les proverbes des marins et une foule de choses que personne au monde ne sait pas aujourd'hui. Tout était peuple en elle et son esprit naturel donnait une vie surprenante aux longues histoires qu'elle racontait et qu'elle était presque la seule à savoir. Ses souffrances ne portèrent aucune atteinte à son étonnante gaieté. Elle plaisantait encore l'après-midi où elle mourut. Le soir, pour la distraire, je passais 1 heure avec elle dans sa chambre. Sans autre lumière, elle aimait cette demi-obscurité que la faible clarté du gaz de la rue. Sa vive imagination s'éveillait alors et, comme il arrive d'ordinaire aux vieillards, c'était les souvenirs d'enfance qui lui revenaient le plus souvent à l'esprit. Elle revoyait Tréguier, Lannion, tels qu'ils furent avant la Révolution. Elle passait en revue toutes les maisons, désignant chacune par le nom de son propriétaire d'alors. J'entretenais par mes questions cette rêverie qui lui plaisait et l'empêchait de songer à son mal. Un jour, la conversation tomba sur l'hôpital général. Elle m'en fit toute l'histoire. « Je l'ai vu changer bien des fois, me dit-elle. Il n'y avait nul honte à y être, car on y avait connu les personnes les plus respectées. Sous le premier empire, avant les indemnités, il servit d'asile aux vieilles demoiselles nobles les mieux élevées. On les voyait rangées à la porte sur de pauvres chaises. Jamais on ne surprit chez elles un murmure. » Cependant, quand elles apercevaient venir de loin les acquéreurs des biens de leur famille, personnes relativement grossières et bourgeoises, roulant équipage et étalant leur luxe, elles rentraient et allaient prier à la chapelle afin de ne pas les rencontrer. C'était moins pour s'épargner à elles-mêmes un regret sur des biens dont elles avaient fait le sacrifice à Dieu que par délicatesse, de peur que leur présence ne parût un reproche à ces parvenus. Ah, plus tard, les rôles furent bien changés, mais l'hôpital continua de recevoir toutes sortes d'épaves. Là mourut le pauvre Pierre Renan, ton oncle, qui mena jusqu'à une ville vagabond et passait ses journées dans les cabarets à lire aux buveurs des livres qu'il prenait chez nous. Et le bonhomme système, que les prêtres n'aimaient pas, quoique ce fût un homme de bien, et Gode, la vieille sorcière, qui le lendemain de ta naissance alla consulter pour toi les temps du bihihi, et Marguerite Calvez, qui fit un faux serment et fut frappée d'une maladie de consomption le jour où elle sut que l'on avait adjuré Saint-Yves de la vérité de la faire mourir dans l'année. Je raconterai peut-être un jour cette histoire. Et cette folle, lui dis-je, qui était d'ordinaire sous l'auvent et qui nous faisait peur à Guyomard et à moi. Elle réfléchit un moment pour voir de qui je parlais, et reprenant vivement, « Ah, celle-là, mon fils, c'était la fille du broyeur de lin. » « Qu'est-ce que le broyeur de lin ?»« Oh, je ne t'ai jamais conté cette histoire. » « Vois-tu, mon fils, on ne comprendrait pas cela maintenant. C'est trop ancien. Depuis que je suis dans ce Paris, il y a des choses que je n'ose plus dire. Ces nobles de campagne étaient si respectés. J'ai toujours pensé que c'étaient les vrais nobles. Ah, si on racontait cela à ces Parisiens, ils riraient. Ils n'admettent que leur Paris. Oh, je les trouve bornés au fond. » Non, on ne peut plus comprendre combien ces vieux nobles de campagne étaient respectés, quoiqu'ils fussent pauvres. Elle s'arrêta quelque temps, puis reprit. Te souviens-tu de la petite commune de Trédazerc, dont on voyait le clocher de la tourelle de notre maison? À moins d'un quart de lieue du village, composé alors presque uniquement de l'église, de la mairie et du presbytère, s'élevait le manoir de Kermel. Oh, c'était un manoir comme tant d'autres, une ferme soignée, d'apparence ancienne, entourée d'un long et haut mur de belle teinte grise. On entrait dans la cour par une grande porte cintrée, surmontée d'un abri d'ardoise, à côté de laquelle se trouvait une porte plus petite pour l'usage de tous les jours. Au fond de la cour était la maison, au toit aigu, aux pignons tapissés de terre. Un colombier, une tourelle, deux ou trois fenêtres bien bâties, presque comme des fenêtres d'église, indiquaient une demeure noble, un de ces vieux castels qui étaient habités avant la Révolution par une classe de personnes dont il est maintenant impossible de se figurer le caractère et les mœurs. Ces nobles de campagne étaient des paysans comme les autres, mais chefs des autres. Anciennement, il n'y en avait qu'un dans chaque paroisse. Ils étaient les têtes de colonne de la population. Personne ne leur contestait ce droit et on leur rendait de grands honneurs. Mais déjà, vers le temps de la Révolution, ils étaient devenus rares. Les paysans les tenaient pour les chefs laïcs de la paroisse, comme le curé était le chef ecclésiastique. Celui de Trédarzeg, dont je te parle, était un beau vieillard, grand et vigoureux comme un jeune homme, à la figure blanche et loyale. Il portait les cheveux longs, relevés par un peigne, et ne les laissait tomber que le dimanche, quand il allait communier. Oh, je le vois encore, il venait souvent chez nous à Tréguier. Sérieux, grave, un peu triste, car il était presque seul de son espèce. Cette petite noblesse de race avait disparu en grande partie. Les autres étaient venus se fixer à la ville depuis longtemps. Toute la contrée l'adorait. Il avait un banc à part à l'église. Chaque dimanche, on l'y voyait, assis au premier rang des fidèles, avec son ancien costume et ses grandes cérémonies qui lui montaient presque jusqu'au coude. Au moment de la communion, il prenait par le bas du cœur, dénouait ses cheveux, déposait ses gants sur une petite crédence préparée pour lui près du jubé, et traversait le cœur seul, sans perdre une ligne de sa haute taille. Personne n'allait à la communion que quand il était de retour à sa place et qu'il avait achevé de remettre ses gantelets. Il était très pauvre, mais il le dissimulait par devoir d'État. Ces nobles de campagne avaient autrefois certains privilèges qui les aidaient à vivre un peu différemment des paysans. Tout cela s'était perdu avec le temps. Kermel était dans un grand embarras. Sa qualité de noble lui défendait de travailler au champ. Alors il se tenait renfermé chez lui tout le jour. Il s'occupait à huis clos à une besogne qui n'exigeait pas le plein air. Quand le lin a roui, on lui fait subir une sorte de décortication qui ne laisse subsister que la fibre textile. Et ce fut le travail auquel le pauvre Kermel crut pouvoir se livrer sans déroger. Personne ne le voyait. L'honneur professionnel était sauf. Mais tout le monde le savait. Et comme alors chacun avait un sobriquet, il fut bientôt connu dans le pays sous le nom de broyeur de lin. Ce surnom, ainsi qu'il arrive d'ordinaire, prit la place du nom véritable et ce fut de la sorte qu'il fut universellement désigné. Oh, c'était comme un patriarche vivant. Tu rirais si je te disais avec quoi le broyeur de lin suppléait à l'insuffisante rémunération de son pauvre petit travail. On croyait que comme chef, il était dépositaire de la force de son sang, qu'il possédait évidemment les dons de sa race et qu'il pouvait avec sa salive et ses attouchements la relever quand elle était affaiblie. On était persuadé que, pour opérer des guérisons de cette sorte, il fallait un nombre énorme de quartiers de noblesse, et que lui seul les avait. Sa maison était entourée à certains jours de gens venus de 20 lieues à la ronde. Quand un enfant marchait tardivement, avait les jambes faibles, on le lui apportait. Il trempait son doigt dans sa salive, traçait des onctions sur les reins de l'enfant, que cela fortifiait. Oh, il faisait tout cela gravement, sérieusement. Que veux-tu ? On avait la foi alors. On était si simple et si bon. Lui, pour rien au monde, il n'aurait voulu être payé. Et puis les gens qui venaient étaient trop pauvres pour s'acquitter en argent. Alors on lui offrait un cadeau, une douzaine d'œufs, un morceau de lard, une poignée de lin, une motte de beurre, un lot de pommes de terre, quelques fruits. Il acceptait. Les nobles des villes se moquaient de lui, mais bien à tort. Il connaissait le pays, il en était l'âme et l'incarnation. À l'époque de la Révolution, il émigra à Jersey. On ne voit pas bien pourquoi. Certainement, on lui aurait fait aucun mal, mais les nobles de Tréguier lui dirent que le roi l'ordonnait. Bon, et il partit avec les autres. Il revint de bonne heure, trouva sa vieille maison que personne n'avait voulu occuper dans l'état où il l'avait laissée. À l'époque des indemnités, on essaya de lui persuader qu'il avait perdu quelque chose. Et il y avait plus d'une bonne raison à faire valoir. Les autres nobles étaient fâchés de le voir si pauvre et auraient voulu le relever. Cet esprit simple n'entra pas dans les raisonnements qu'on lui fit. Quand on lui demanda de déclarer ce qu'il avait perdu, « Je n'avais rien, dit-il, je n'ai pas pu rien perdre. » On ne réussit pas à tirer de lui d'autres réponses, et il resta pauvre comme auparavant. Sa femme mourut, je crois, à Jersey. Il avait une fille qui était née vers l'époque de l'émigration. C'était une belle et grande fille. Oh, tu ne l'as vue que fanée, toi. Elle avait de la sève de nature, un teint splendide, un sang pur et fort. Il eût fallu la marier jeune, c'était impossible. Ces faillis petits nobles de petites villes qui ne sont bons à rien et qui ne valaient pas le quart du vieux noble de campagne n'auraient pas voulu d'elle pour leur fils. Les principes empêchaient de la marier à un paysan. Alors la pauvre fille restait ainsi suspendue, comme une âme en peine, elle n'avait pas de place ici-bas. Son père était le dernier de sa race et Elle semblait jetée à plaisir sur la terre pour n'y pas trouver un coin où se caser. Elle était douce et soumise. C'était un beau corps, presque sans âme. L'instinct chez elle était tout. Où c'eût été une mère excellente. À défaut du mariage, on eût dû la faire religieuse. La règle et les austérités l'eussent calmée. Mais il est probable que le père n'était pas assez riche pour payer la dot, et sa condition ne permettait pas de la faire sœur converse. Pauvre fille, jetée dans le feu, elle était condamnée à y périr. Elle était née droite et bonne, n'eut jamais de doute sur ses devoirs. Elle n'eut d'autre tort que d'avoir des veines et du sang. Aucun jeune homme du village n'aurait osé être indiscret avec elle, tant on respectait son père. Le sentiment de sa supériorité l'empêchait de se tourner vers les jeunes paysans. Pour ceux-ci, elle était une demoiselle. Il ne pensait pas à elle. La pauvre fille vivait ainsi dans une solitude absolue. Il n'y avait dans la maison qu'un jeune garçon de 12 ou 13 ans, neveu de Kermel, que celui-ci avait recueilli, auquel le vicaire, d'ignoble s'il en fut, apprenait ce qu'il savait, le latin. L'église restait la seule diversion de la pauvre enfant. Elle était pieuse par nature, quoique trop peu intelligente pour rien comprendre au mystère de notre religion. Le vicaire, un bon prêtre, très attaché à ses devoirs, avait pour le broyeur de lin le respect qu'il devait. Les heures que lui laissait son bréviaire et les soins de son ministère, il les passait chez ce dernier. Il faisait l'éducation du jeune neveu. Pour la fille, où il avait ses manières réservées qu'ont nos ecclésiastiques bretons avec les personnes du sexe, comme ils disent, il la saluait, lui demandait de ses nouvelles, mais ne causait jamais avec elle, si ce n'est de choses insignifiantes. La malheureuse s'éprenait de lui de plus en plus. Le vicaire était la seule personne de son rang qu'elle vit, s'il est permis de parler de la sorte. Ce jeune prêtre était avec cela une personne très attrayante. À la pudeur exquise que respirait tout son extérieur, se joignait un air triste, résigné, discret. On sentait qu'il avait un cœur et des sens, mais qu'un principe plus élevé les dominait, ou plutôt que le cœur et les sens se transformaient chez lui en quelque chose de supérieur. Tu sais le charme infini de quelques-uns de nos bons ecclésiastiques bretons. Les femmes sentent cela bien vivement. Cet invincible attachement à un vœu, qui est à sa manière un hommage à leur puissance, les enhardit, les attire, les flatte. Le prêtre devient pour elle un frère sûr, qui a dépouillé à cause d'elle son sexe et ses joies. De là un sentiment où se mêlent la confiance, la pitié, le regret, la reconnaissance. Mariez le prêtre et vous détruirez un des éléments les plus nécessaires, une des nuances les plus délicates de notre société. La femme protestera, car il y a une chose à laquelle la femme tient encore plus qu'à être aimée, c'est qu'on attache de l'importance à l'amour. On ne flatte jamais plus la femme qu'en lui témoignant qu'on la craint. L'Église, en imposant pour premier devoir à ses ministres la chasteté, caresse la vanité féminine en ce qu'elle a de plus intime. Alors la pauvre fille se prit ainsi pour le vicaire d'un amour profond qui occupa bientôt son être tout entier. La vertueuse et mystique race à laquelle elle appartenait ne connaît pas la frénésie qui renverse les obstacles et qui estime ne rien avoir si elle n'a pas tout. Ouf! Elle se fut contentée de bien peu de choses. Qu'il admît seulement son existence, elle eût été heureuse. Elle ne lui demandait pas un regard, une pensée eût suffi. Le vicaire était naturellement son confesseur. Il n'y avait pas d'autre prêtre dans la paroisse. Les habitudes de la confession catholique, si belles mais si périlleuses, excitaient étrangement son imagination. Une fois par semaine, le samedi, c'était une douceur inexprimable pour elle d'être une demi-heure seule avec lui, comme face à face avec Dieu, de le voir, de le sentir remplissant le rôle de Dieu, de respirer son haleine, de subir la douce humiliation de ses réprimandes, de lui dire ses pensées les plus intimes, ses scrupules, ses appréhensions. Oh, il ne faut pas croire néanmoins qu'elle en abusa. Bien rarement une femme pieuse ose se servir de la confession pour une confidence d'amour. Elle y peut jouir beaucoup. Elle risque de s'y abandonner à des sentiments qui ne sont pas sans danger. Mais ce que de tels sentiments, toujours un peu mystiques, est inconciliable avec l'horreur d'un sacrilège. En tout cas, notre pauvre fille était si timide que la parole eût expiré sur ses lèvres. Sa passion était un feu silencieux, intime, dévorant. Avec cela, le voir tous les jours, plusieurs fois par jour, lui, beau, jeune, toujours occupé de fonctions majestueuses, officiant avec dignité au milieu d'un peuple incliné, ministre, juge et directeur de sa propre âme, c'en était trop. La tête de la malheureuse enfant n'y tint pas. Elle s'égarait. Des désordres de plus en plus graves se produisaient dans cette organisation forte et qui ne souffrait pas d'être déviée. Le vieux père attribuait à une certaine faiblesse d'esprit ce qui était le résultat des ravages intimes de rêves impossibles en un cœur que l'amour aurait percé de part en part. Comme un violent cours d'eau qui, rencontrant un obstacle infranchissable, renonce à son cours direct et se détourne, la pauvre fille, n'ayant aucun moyen de dire son amour à celui qu'elle aimait, se rabattait sur des riens. Obtenir un instant son attention, ne pas être pour lui la première venue, être admise à lui rendre de petits services, pouvoir s'imaginer qu'elle lui était utile, cela lui suffisait. Mon Dieu, qui sait, pouvait-elle se dire, il est homme après tout, peut-être au fond. Se sent-il touché? N'est-il retenu que par la discipline de son état? Tous ses efforts rencontrèrent une barre de fer, un mur de glace. Le vicaire ne sortit pas d'une froideur absolue. Elle était la fille de l'homme qu'il respectait le plus, mais elle était une femme. Oh! S'il l'avait évitée, s'il l'avait traitée durement, c'eût été pour elle un triomphe et la preuve qu'elle l'avait atteinte au cœur. Mais cette politesse, toujours la même, cette résolution de ne pas voir les signes les plus évidents d'amour, était quelque chose de terrible. Il ne la reprenait pas, ne se cachait pas d'elle. Il ne sortait pas du parti inébranlable qu'il avait pris de n'admettre son existence que comme une abstraction. Au bout de quelque temps, ce fut cruel. Repoussée, désespérée, la pauvre fille dépérissait. Son œil s'égara, elle s'observait. Au fond, personne ne voyait son secret, elle se rongeait intérieurement. « Quoi ? » se disait-elle. « Je ne pourrai arrêter un moment son regard. Il ne m'accordera pas que j'existe. Je ne serai quoi que je fasse pour lui qu'une ombre, qu'un fantôme, qu'une âme entre cent autres. Son amour, oh, ce serait trop désiré, mais son attention, son regard. Être son égal, lui si savant, si près de Dieu, je n'y saurais prétendre. Être mère par lui, oh, ce serait un sacrilège, Mais être à lui, être Marthe pour lui, la première de ses servantes, chargée des soins modestes dont je suis bien capable, et de la sorte avoir tout en commun avec lui, tout, c'est-à-dire la maison, ce qui importe à l'humble femme qui n'a pas été initiée à de plus hautes pensées. Oh, ce serait le paradis. Et elle restait des après-midi entiers, immobile, assise en sa chaise, attachée à cette idée fixe. Elle le voyait, s'imaginait être avec lui, l'entourant de soins, gouvernant sa maison, baisant le bas de sa robe. Elle repoussait ses rêves insensés, mais après s'y être livrée des heures, elle était pâle, à demi-morte. Elle n'existait plus pour ceux qui l'entouraient. Son père aurait dû le voir, mais que pouvait le simple vieillard contre un mal dont son âme honnête ne pouvait même concevoir la pensée? Mais cela se continua ainsi peut-être une année. Il est probable que le vicaire ne s'aperçut de rien, tant nos prêtres vivent à cet égard dans le convenu, dans une sorte de résolution de ne pas voir. Cette chasteté admirable ne faisait qu'exciter l'imagination de la pauvre enfant. L'amour chez elle devint culte, adoration pure, exaltation. Elle trouvait ainsi un repos relatif. Son imagination se portait vers des jeux inoffensifs. Elle voulait se dire qu'elle travaillait pour lui, qu'elle était occupée à faire quelque chose pour lui. Elle était arrivée à rêver éveillée, à exécuter comme une somnambule des actes dont on n'avait qu'une demi-conscience. Nuit et jour, elle n'avait plus qu'une pensée. Elle se figurait le servant, le soignant, comptant son linge, s'occupant de ce qui était trop au-dessous de lui pour qu'il y pensât. Et toutes ces chimères arrivèrent à prendre un corps et la menèrent à un acte étrange qui ne peut être expliqué que par l'état de folie où elle est décidément depuis quelque temps. Ce qui suit, en effet, serait incompréhensible si l'on tenait compte de certains traits du caractère breton. Ce qu'il y a de plus particulier chez les peuples de race bretonne, c'est l'amour. L'amour est chez eux un sentiment tendre, profond, affectueux, bien plus qu'une passion. C'est une volupté intérieure qui use et tue. Rien ne ressemble moins au feu des peuples méridionaux. Le paradis qu'ils rêvent est frais, vert, sans ardeur. Nulle race ne compte plus de morts par amour. Le suicide y est rare. Ce qui domine, c'est la lente consomption. Le cas est fréquent chez les jeunes conscrits bretons. Incapables de se distraire par des amours vulgaires et vénales, ils succombent à une sorte de langueur indéfinissable. La nostalgie n'est que l'apparence. La vérité est que l'amour, chez eux, s'associe d'une manière indissoluble au village, au clocher, à l'angélus du soir, au paysage favori. L'homme passionné du midi tue son rival, tue l'objet de sa passion. Le sentiment dont nous parlons ne tue que celui qui l'éprouve. Et voilà pourquoi la race bretonne est une race facilement chaste. Par son imagination vive et fine, elle se crée un monde aérien qui lui suffit. La vraie poésie d'un tel amour, c'est la chanson de printemps du Cantique des Cantiques, poème admirable, bien plus voluptueux que passionné. Iem stancit, imberabit et requessit, vox turturis audita est in terra nostra, surge amica mea et venit.